Il semblerait bien qu'une tendance se dessine aujourd'hui, celle de se venger dans les livres, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. L'espace public est devenu le lieu d'expression pour la vengeance. Et pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le plus gros succès de la rentrée en librairie est une histoire de vengeance. Valérie Trierweiler, avec plus de 600 000 livres vendus, est même devenue la figure de proue du mouvement des revanchards. Mais que se cache-t-il derrière la vengeance? Quels bénéfices peut-on en tirer? La Tête au Carré, en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, vous propose donc cet après-midi de décrypter ce comportement familier avec mes invités Étienne Mullet, Nicolas Baumard et Sébastien Boller. Bonjour, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Étienne Mullet, vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous avez dirigé le laboratoire d'éthique. Vous avez travaillé en psychologie expérimentale sur les thèmes du pardon et de la réconciliation, suite notamment à la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et vous avez publié dans Cerveau et Psycho justement un article sur les bénéfices de la vengeance. Ça nous intéresse beaucoup d'en parler avec vous. Nicolas Baumard, vous êtes psychologue au département d'études cognitives de l'École normale supérieure de Paris. Votre approche évolutionnaire des comportements moraux va nous permettre de voir comment la vengeance se traduit par exemple aussi chez les animaux, mais bien sûr sur les sociétés et également sur la santé. Et puis Sébastien Boller, vous êtes rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Bien sûr, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Nouveau numéro donc qui vient de paraître. Alors c'est le génie hein, qui est à la une de ce numéro, mais on peut y lire un article sur la vengeance.
Exactement, je précise juste que je suis journaliste et pas rédacteur en chef.
Voilà, journaliste à Cerveau et Psycho. On va se retrouver dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis nous terminerons bien sûr avec le quiz de la Tête au Carré. Deux nouveaux candidats vont s'affronter avec nous tout à l'heure. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Sylvain Guilbeault.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le mercredi, le jour du ciel et de l'espace dans la Tête au Carré. Bonjour Philippe Hénarejos. Dans votre chronique aujourd'hui, il y a des pilotes d'essai et des touristes spatiaux.
Oui, c'est d'espace que je vais vous parler aujourd'hui. Donc le 31 octobre dernier, l'avion spatial Spaceship Two de la compagnie privée Virgin Galactic s'est désintégré en plein vol, entraînant la mort de l'un de ses deux pilotes, Michael Alsbury. L'autre, Peter Siebold, a été éjecté lors de la rupture de l'appareil. Vu que l'accident est survenu à une vitesse légèrement supersonique, le fait qu'il ait réussi à redescendre en parachute et à n'être que blessé peut être considéré comme un petit miracle.
C'est vrai,
de passage.
Hein, oui, très étonnant.
D'autant que le Spaceship Two, je le rappelle, ne comprenait pas de siège éjectable. Donc il a été éjecté vraiment par la rupture de l'appareil.
Ouais, c'est ce qui l'a sauvé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes de l'accident?
Alors, quelques jours après, les causes exactes ne sont pas encore établies. Les enquêteurs de l'organisme américain, le National Transportation Safety Board, n'ont dévoilé que quelques premières constatations factuelles. D'abord, le moteur a été retrouvé entier. Les réservoirs de carburant aussi. Ils sont endommagés par la chute, naturellement. L'avion a chuté de 15 mm d'altitude. Mais on peut dire qu'ils n'ont pas explosé. Ils ne sont donc pas directement à l'origine de l'accident. Or, comme l'appareil s'est désintégré 9 secondes après l'allumage du moteur, on aurait pu penser que le moteur, qui connaît des problèmes de développement au passage, y était pour quelque chose. Ce n'est pas le cas.
Ouais. On a entendu parler aussi, Philippe, d'une possible erreur de pilotage.
Là aussi, c'est possible, mais pas certain du tout. Tout vient d'une vidéo de l'intérieur du cockpit qui montre Michael Alsbury actionner une manette de déverrouillage de l'empennage. Il faut savoir que sur cet appareil, une partie de la voilure arrière s'incline à 65 degrés, mais cette opération ne se fait qu'à plus de Mach 1,4 lorsque l'engin redescend. Or, le déverrouillage a eu lieu à Mach 1 dans une phase d'accélération, donc ce n'était pas prévu du tout. Mais ni le pilote ni le copilote n'ont agi, deuxième action obligatoire, sur le manche destiné à incliner l'empennage pour qu'il se mette en position ouverte, si je peux dire. Or, celui-ci s'est quand même mis en position ouverte. Pourquoi l'un des pilotes, qui connaît bien l'appareil quand même, a-t-il déverrouillé? Sans doute pas pour commettre une erreur fatale sciemment. Peut-être quelque chose ne fonctionnait-il déjà pas sur l'appareil à ce moment-là. Le survivant pourra peut-être répondre.
Ouais, au-delà des faits, que va devenir donc ce rêve du tourisme spatial?
Alors d'abord, il faut rappeler que ce n'est un rêve que pour des gens très fortunés. Le ticket pour un vol de environ 45 minutes, dont quelques-unes à plus de 100 km d'altitude et en apesanteur, est à 200 000 $.
Oui.
À ce prix, il y a quand même 300 réservations. Richard Branson, le milliardaire qui dirige Virgin Galactic, la société qui a entrepris de commercialiser ses vols, a annoncé que le programme allait continuer. Pas plus tard qu'hier, il a précisé qu'un deuxième Spaceship Two était construit à 65% et qu'il volerait dès 2015. Alors toutefois, l'addition commence à être salée. Michael Alsbury n'est pas le premier mort du programme. Le 26 juillet 2007, lors d'un test de moteur, heures, au sol, l'explosion d'un réservoir avait causé la mort de 3 employés. Alors surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces accidents rappellent que voler aux limites de l'espace reste très dangereux. En cela, Virgin Galactic ne fait que filer dans les traces de Chuck Yeager qui, dès 1947, avait franchi le mur du son à bord du X-1, ou même de Neil Armstrong, qu'on connaît bien, qui est le pilote le plus illustre du X-15, avion qui, au tout début des années 1960, avait propulsé quelques hommes à plus de 80 km d'altitude. Mais il faut rappeler qu'à toutes ces époques, le tribut a été lourd. De nombreux pilotes ont été blessés ou ont perdu la vie dans ces tentatives. Ce danger, on le voit, est toujours là, un demi-siècle plus tard, tout simplement parce que techniquement, voler à plusieurs fois la vitesse du son avec un avion, s'élever à des dizaines de kilomètres et redescendre en vol plané, c'est quelque chose de compliqué. Ouais. Et ce risque, acceptable pour des pilotes d'essai, hein, c'est les deux passagers étaient des pilotes d'essai dont l'essence même est de titiller les limites de l'engin, restera-t-il admissible pour des stars du cinéma, de la mode ou du sport ?
Ils vont être un peu refroidis là quand même, a priori.
Ouais,
non,
je crois qu'ils vont être refroidis parce qu'en plus, leur implication dans ce story spatial, je m'avance peut-être un peu, relève sans doute en majorité davantage de l'envie de se montrer que d'une passion dévorante pour l'exploration de l'espace.
Vous êtes mauvaise langue,
oui, certainement.
Philippe, c'est pour l'amour du ciel, évidemment. Bon, la semaine prochaine, à la même heure, nous serons en direct de la Cité des Sciences à Paris pour faire vivre ensemble en direct aux auditeurs l'atterrissage de Philae sur la comète Churyumov. Donc c'est un événement européen très important.
Européen et mondial.
Parce et mondial,
que
oui.
C'est quelque chose qui n'a jamais été tenté. Là aussi, c'est quelque chose de techniquement très compliqué. La comète bouge en tous les sens, il y a des jets de gaz qui arrivent. Le module est largué sur une trajectoire balistique, c'est-à-dire qu'il n'a aucun moteur pour s'orienter et choisir l'endroit d'atterrissage, donc il faut bien viser.
Donc on va tous frémir.
On va tous frémir, mais il n'y a personne à bord, donc on ne risque pas grand-chose. Quand même.
Oui, mais pour le geste, on aimerait évidemment que Philae
puisse
se poser sur la comète.
On espère, quelques heures après, le grand panorama à 360 degrés sur un paysage de la comète.
Voilà, donc on invite évidemment les auditeurs à nous rejoindre à la Cité des Sciences mercredi prochain. L'émission sera en direct avec un plateau d'invités prestigieux pour commenter, expliquer cette opération. Et puis Sophie Becherel sera en duplex de Darmstadt en Allemagne. Merci beaucoup Philippe, donc à mercredi à la Cité des Sciences. La vengeance, nous allons la déguster froide, bien sûr, dans un instant avec nos invités. Vos messages, franceinter.fr et puis également sur les réseaux pour en parler. N'hésitez pas à témoigner, ça nous intéresse de vous lire. Les réseaux, c'est le hashtag l'attaque avec le mot-clé pour vous tout de suite. Sergio avec la voix de Stevie Wonder.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
J'ai déjà tué énormément de gens tels que tu me vois. Je me suis livrée à ce que les pubs du film ont appelé une furieuse frénésie de vengeance dans un déchaînement de violence. Une vraie furie. Je me suis bien déchaînée. J'en ai tiré beaucoup de satisfaction.
Je te conseille de commencer à trembler, parce qu'elle sera là bientôt.
Et quand je serai arrivée à destination, ce sera pour tuer Bill.
Voilà, la vengeance façon Quentin Tarantino dans Kill Bill en 2003. C'est le thème de notre tête au carré cet après-midi, en partenariat avec nos confrères de Cerveau et Psycho qui publient un article sur la vengeance dans leur nouveau numéro « Comment naît la soif de vengeance ? Que peut-on en tirer ?» On en discute avec mes invités, Étienne Mullet, donc directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, Nicolas Baumard, psychologue au département d'études cognitives de l'École normale supérieure de Paris, et Sébastien Boller, donc journaliste à Cerveau et Psycho. Et vos témoignages, vos questions qui arrivent déjà sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé « l'attaque ». Sébastien Boller, est-ce que c'est le succès du livre de Valérie Trierweiler qui vous a donné envie de proposer à vos lecteurs cet article sur la vengeance ?
Bien sûr. Non, mais c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai rencontré des gens dans le train, dans les transports, qui lisaient ce livre et qui me disaient qu'ils ne lisaient jamais, mais que celui-là, ils l'avaient acheté. Voilà.
Pour quelle raison ?
Ah ben,
ça leur faisait du bien de voir quelqu'un se venger, justement.
Ben, c'était toute la question. Je pense qu'il y a plein de motifs, mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans la psychologie humaine qui devait fonctionner à ce niveau-là.
Ouais. Alors notre psychologue, justement, Nicolas Baumard, qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène, quand même, qui dit quelque chose sur ce comportement, peut-être aussi, hein ?
Ah oui, c'est absolument fascinant. Et ce qui est fascinant, c'est le plaisir qu'on a, l'intérêt qu'on a pour avoir la vengeance. On est une espèce extrêmement sociale, on s'intéresse tout le temps au comportement des autres. Mais effectivement, le plaisir qu'on a à se venger, et ça c'est vraiment intéressant d'un point de vue psychologique, pourquoi c'est aussi agréable de se venger, pourquoi tout le monde a au moins, pas envie de se venger, mais aime entretenir des idées de vengeance, oui. Sans doute parce que c'est un comportement qui pendant longtemps a été un comportement très adaptatif. La vengeance, c'est quelque chose de très ancien, qui existe dans énormément d'espèces sociales. Donc c'est probablement quelque chose qui existe depuis des millions, des dizaines de millions d'années. C'est très utile et c'est pour ça qu'on aime ça.
Étienne Mullet, sur justement le succès du livre de Valérie Trierweiler. Et puis aussi en écho au titre de votre article pour Cerveau Psycho, les bénéfices de la vengeance.
Oui, je pense que le titre de l'article... porte le mot bénéfice, mais dans mon esprit, il s'agit de bénéfices négatifs. C'est-à-dire que si la vengeance a été un mécanisme adaptatif à une époque où la vie sociale était essentiellement la vie clanique, la vie familiale, la vie fermée, la vie étroite, de nos jours, la vengeance a perdu de son utilité, peut-être pas de son attrait, mais en tout cas a perdu de son utilité. Je ne pense pas qu'elle soit rentable, même si par des actes de vengeance, on peut quelquefois considérablement s'enrichir.
Ouais, le titre est un peu trompeur, alors, finalement. Hein.
Oui, mais c'est le...
Mais il y a quand même des bénéfices à se venger, quand même.
Il y a peu d'études qui montrent qu'il y a des bénéfices à se venger. Généralement, se venger, ça consiste à agir sur le monde extérieur en espérant un bénéfice dans notre monde intérieur, donc une diminution du ressentiment, par exemple, qui est quelque chose qui est une émotion désagréable. Et en fait, un acte sur le monde extérieur ne peut pas avoir beaucoup d'effet sur notre monde intérieur.
Et oui, pourtant, Nicolas Baumard, dans l'acte de se venger, il y a cette intention quand même de se faire du bien, de réparer quelque chose pour soi. Quand même, hein.
Ah oui, c'est un comportement qui est vraiment avantageux pour l'individu. C'est quelque chose qui est égoïste et qui était avantageux. C'est ça qui est vraiment intéressant d'analyser. C'est que pendant très longtemps, les animaux, mais notre espèce, pendant des centaines de millions d'années, on a vécu dans un environnement où il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'État. Et la violence, c'était la meilleure façon de se défendre contre de futures attaques. La vengeance, ça sert à prévenir des attaques futures. Et on pourrait même dire que avec l'avancée des États, des grands États, la violence a décroît, mais même jusqu'au siècle dernier, la police n'était pas encore partout. Donc pendant une grande partie de l'histoire, vraiment, se venger, c'est quelque chose d'utile. Et c'est pour ça qu'on a envie de se venger. Mmh. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça commence à être vraiment problématique.
Mmh. Oui. Aujourd'hui, ce que vous dites, Étienne Mulet, c'est qu'il y a un petit peu les deux systèmes qui cohabitent, le système de la justice centralisée et le système des petites vengeances qui sont tolérées tant qu'elles ne sont pas justement dans le domaine délictuel. Mmh. Et vous citez des expériences qui sont passionnantes qui montre que quand on se venge de façon proportionnée sur des petits torts qu'on se cause les uns aux autres, finalement, c'est une façon de se faire respecter et d'installer, de marquer son territoire pour ne pas être le dindon de la farce systématiquement.
Oui, je crois que c'est le mot cohabitation qui est important dans votre déclaration. Les deux, l'un des systèmes n'a pas été supplanté par l'autre système. Les deux systèmes cohabitent et les deux systèmes ont chacun un domaine d'application. Et dans la vie domestique, par exemple, on va difficilement recourir à la justice pour résoudre les petits problèmes du quotidien. Par contre, dès qu'il est question d'homicide, de vol, d'escroquerie grave, il est évident que le système de justice est celui qui doit s'appliquer.
Et on voit qu'on légifère aussi aujourd'hui sur de nouvelles lois justement pour punir certains actes de vengeance personnelle. On le voit de plus en plus d'ailleurs sur ce qui se passe sur Internet, avec on peut imaginer ces personnes qui diffusent des photos ou des vidéos intimes de leur ancien conjoint par exemple, et ça maintenant c'est puni très sévèrement.
Oui, exactement. Donc encore une fois, l'État progresse siècle après siècle, année après année. Il y a des choses, des types de vengeance qu'on tolérait encore il y a 100 ans. La vengeance, par exemple, en cas d'adultère, par exemple, encore dans de nombreux pays, c'était toléré il n'y a pas très longtemps. Et la vengeance sur Internet, ça a été toléré. Et donc, on est dans des sociétés qui se pacifient et où céder à la tentation de la vengeance devient très, très problématique, même dans la vie quotidienne. On a envie de se venger de petites incivilités. Et là encore, dans un monde interconnecté où la réputation est toujours en jeu, ça commence à être problématique.
Étienne Mulet-Viron nous dit « La vengeance, un plat qui se mange froid ». Est-ce que ce proverbe est bien adapté ? On rumine beaucoup quand on veut se venger d'abord, oui. Non ? Avant de passer à l'acte.
Disons qu'il peut aussi se manger tiède. Il faut surtout
pour ceux qui vont un peu plus vite, alors.
Il faut bien distinguer la réaction immédiate à une agression. Si vous êtes victime d'une transgression, vous vous défendez, c'est naturel.
Sur le champ.
Sur le champ, c'est une réaction. Et puis, quelques personnes en restent là. D'autres, au contraire, développent un désir de vengeance et donc ils préparent une nouvelle transgression d'une certaine manière. Et c'est cette petite distance entre le moment chaud de l'agression et le moment de la vengeance qui nous permet souvent de dire que c'est un plat qui se mange froid. Je dirais, moi, quand même, qu'il peut se manger tiède.
Oui, voilà, Nicolas Baumard, voire chaud aussi, on peut le manger assez vite, non ?
Oui, ça, je pense que c'est un plat qui se mange à chaud, et peut-être que l'adage essaye de nous mettre en garde sur le fait qu'il faut, il faut pas écouter ce sentiment immédiat, il faut attendre.
Ah, c'est un conseil au fond,
peut-être
cette expression.
Que c'est un conseil, je sais pas.
Oui, on devrait préférer le manger froid pour bien mûrir.
On devrait sûrement réfléchir un petit peu à chaque fois qu'on a envie de.
Je pense que ça fait aussi référence au fait que chacun tient des comptes personnels de ce qu'il a subi. Mmh. Et que les offenses qu'on subit s'ancrent dans des couches de la mémoire qui peuvent être très profondes. Et je pense à ce que vous disiez, Étienne Mulet, sur même chez les chimpanzés, qui parfois attendent longtemps avant de prendre leur revanche.
Alors ça, c'est un comportement qu'on observe justement en primatologie. Vous citez Franz De Waal, par exemple. Il a vraiment observé ces comportements de vengeance chez le primate.
Absolument, oui. Je conseille d'ailleurs à toute personne intéressée, soit par le pardon, soit par la vengeance, soit par les conduites sociales en général, de s'intéresser aux travaux de Franz De Waal, les observations.
Qu'est-ce qu'il a observé alors exactement ?
Il observe par exemple que les singes, comme je dis dans l'article, font une comptabilité des actes positifs et des actes négatifs dont ils sont victimes, et sont capables de réagir soit positivement en étant à leur tour, en commettant à leur tour des actes positifs, ou en commettant quelquefois en groupe des actes négatifs.
Et ces actes négatifs, ils sont capables de les commettre sur un temps donc décalé par rapport à l'agression qu'ils ont subie.
Voilà, c'est le décalement entre la transgression et l'acte subséquent qui nous permet de parler de vengeance, encore que vous le savez, il y a plusieurs écoles, et certaines écoles nous interdisent d'utiliser des concepts humains pour décrire des comportements animaux, alors que Franz De Waal nous encourage plutôt à puiser dans notre répertoire de compréhension des comportements, disons, au moins de mammifères, pour comprendre ceci.
Ouais. Alors, est-ce qu'on fait de l'anthropomorphisme, Nicolas Baumard, ou pas, avec les chimpanzés ?
Je ne pense pas qu'on fait de l'anthropomorphisme, mais je pense que c'est vraiment important pour nous de voir à quel point on est proche des chimpanzés. On parle de vengeance, il y a aussi le pardon, et c'est ça, une des choses que Franz De Waal a mis en avant chez les chimpanzés, c'est que non seulement ils sont violents, alors ça tout le monde est prêt à l'admettre, les animaux sont violents, mais aussi ils sont capables de pardonner, de se réconcilier, de se Et en gros, de se dire, bon, et je vais rester dans ce groupe pendant encore plusieurs années, il va bien falloir continuer à cohabiter avec cette personne, réconcilions-nous, pardonnons. Mmh. Mais donc, c'est pareil, le pardon, ce n'est pas une invention récente, c'est quelque chose qui est
c'est
très,
quoi le pardon
ancien.
C'est exactement le contrat de la vengeance ou pas?
Non, non, je ne pense pas, puisque comme je disais il y a quelques instants, la vengeance, ça suppose un acte dans le monde extérieur. Alors que le pardon, c'est un travail sur soi-même, c'est un travail sur son ressentiment. C'est un travail qui permet en théorie de faire diminuer ce ressentiment qui est une émotion extrêmement désagréable. Et on peut, il y a des techniques, par exemple, il y a des thérapies qui permettent de le faire chez les personnes qui rencontrent naturellement des difficultés. Et puis, il y a des circonstances extérieures, par exemple des excuses qui sont proposées par l'agresseur. Et puis aussi la réalisation que chacun d'entre nous a été à un moment donné un agresseur, un transgresseur, éventuellement un escroc.
Et le pardon n'exclut pas non plus la vengeance, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut d'abord se venger avant de pardonner. On a parfois besoin de passer par ce stade.
C'est sûrement plus facile, d'ailleurs.
C'est beaucoup plus facile, évidemment.
Oui, ça a été une grande surprise des résultats d'une enquête que nous avions menée il y a une dizaine d'années sur la manière dont les gens conceptualisaient le pardon. Pour 10 à 15% des personnes, effectivement, ces personnes déclaraient ne pouvoir pardonner qu'à la condition de s'être vengées.
Ouais. Nicolas Baumard, encore un mot sur les animaux, parce qu'on cite l'exemple des primates. Chez quelle autre espèce on a pu observer un acte de vengeance? Est-ce qu'il y a des animaux qui vous viennent à l'idée comme ça?
J'ai pas exactement d'animaux en tête, mais finalement, dans toutes les espèces sociales, à partir du moment où on est bloqué dans un groupe, il faut collaborer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus important chez les primates qui ont une vie sociale intense et pas d'autres animaux qui juste sont les uns à côté des autres. À partir du moment où il y a une vie sociale, où il faut faire des alliances, coopérer, chasser, il va y avoir des gens qui profitent et il va y avoir des gens qui veulent se venger.
Alain nous dit ceci sur franceinter.fr, la vengeance au-delà du désir de gagner ne viserait-elle pas à rétablir un sentiment d'équité? Étienne Mulet.
Oui, oui, c'est en agissant sur le monde extérieur, on espère effectivement rétablir, disons, la balance. On a été victime d'un acte, d'une agression, en agressant quelqu'un d'autre, on pense qu'on va rétablir. Le problème est que cet acte que l'on porte dans le monde extérieur n'a pas beaucoup d'effet dans notre monde intérieur, qui est celui qui nous fait souffrir. Oui. Étant donné que quand on veut travailler sur le monde intérieur, il faut travailler sur celui-ci directement, à travers le pardon.
Nicolas Baumard et puis Sébastien ensuite.
C'est vraiment intéressant cette question de proportionnalité, parce qu'effectivement, les humains, à la différence des animaux, sont une espèce morale. Et vraiment, on a cette notion d'équité, on cherche à proportionner. Et moi, il me semble que la vengeance, c'est quelque chose qui est pré-moral. Ça ne vise pas à rétablir l'équité. On l'a vu à votre exemple de Kill Bill. Dans Kill Bill, ça va largement au-delà de l'équité. C'est-à-dire que, en fait, la vengeance, à la base, c'est complètement immoral. Ça vise à prévenir une attaque. Et la meilleure façon de prévenir une attaque, c'est de tuer l'adversaire. Donc, ce n'est pas de la proportionnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, puisqu'on est une espèce morale, la seule vengeance qui est autorisée, c'est une vengeance proportionnelle.
Mmh. Sébastien. Voilà, j'allais dire que la vengeance dans ces conditions est une sorte d'équité primitive. Exactement. Les expériences d'Axel Rhodes que vous citez montrent que dans certaines situations, spontanément, certains individus rendent coup pour coup, mais évitent d'aller plus loin. Mmh. Donc ça, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Ensuite, chacun campe sur ses positions. Il y a une forme où finalement, on se dit, bon, j'ai encaissé, j'ai donné. Mais on est dans une sorte de rétribution toujours subjective et émotionnelle. Et c'est ce qu'a très bien identifié Hegel, le philosophe, au début du 19e siècle, où il disait que finalement, dans son contenu, la vengeance est légitime parce qu'elle introduit une proportionnalité, mais elle est initiée par l'affect de la partie lésée. Et donc, elle peut donner suite qu'à une spirale, parce que c'est de nouveau une transgression. Donc une transgression appelle de nouveau une vengeance, et le seul moyen d'enrayer ça, c'est d'avoir un système judiciaire centralisé.
Thierry nous dit ceci, le respect de la loi du talion, justement, est-elle la meilleure solution, Étienne Mulet?
Le problème est celui de la proportionnalité, c'est-à-dire que qui va estimer si la transgression en retour a les mêmes proportion est aussi douloureuse que la transgression en amont, la transgression initiale. Je pense que c'est la raison pour laquelle cette difficulté d'estimation est la raison pour laquelle les systèmes de justice ont pu se développer et la plupart des gens adhèrent d'ailleurs avec les systèmes de justice quand il s'agit justement d'établir une proportionnalité.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages et de témoignages sur la vengeance. Franceinter.fr. Brother, do you believe in afterlife, where our souls will both collide in some great Elysium, way out in the sky, free from
from our shackles, our chains, our mouths, our brains. We'll open all the gates. We will walk careless straight into the light.
Birthday sur France Inter avec Elysium.
La tête au carré sur France Inter.
La vengeance donc au menu de notre émission avec le magazine Cerveau et Psycho qui sort un article sur le sujet, article que vous signez Étienne Mulet, donc sur les bénéfices de la vengeance, les messages nombreux, les témoignages des auditeurs. À nos côtés également Nicolas Beaumart qui est psychologue. Vous êtes l'auteur d'un livre « Comment nous sommes devenus moraux » qui a été publié chez Odile Jacob en 2010. Donc vous parlez de la vengeance dans cet ouvrage ?
Je parle un peu de la vengeance effectivement. Mais surtout de la morale, puisque ce qui est caractéristique de notre espèce, c'est que non seulement on se venge, on se défend, on attaque, mais également on coopère beaucoup plus. Et quand on coopère, il faut savoir se réconcilier, il faut savoir arrêter de se venger, ou comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir se venger de manière relativement proportionnée, rétablir la justice, mais pas aller au-delà.
Sébastien Boller, c'est vrai qu'on assiste en ce moment à un nombre de règlements de compte très importants. Hein. Ancien ministre, ancien conseiller politique, femme bafouée, sans compter évidemment ce qui se passe sur Internet. ce sont ces moyens de communication dont on dispose aujourd'hui qui permettent justement à tout un chacun d'avoir des armes redoutablement efficaces pour se venger précisément.
Alors oui, il y a toujours la capacité d'exposer au grand jour les petites failles d'autrui. Mais je pense aussi, moi, ce qui m'interpelle dans les milieux politiques, c'est la notion de narcissisme, en fait. Parce que d'autres études ont également montré que plus une personne est narcissique, moins elle supporte l'offense, et plus elle a tendance à réagir justement de façon disproportionnée. Alors, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'effectivement, dans les hauts postes de responsabilité, les niveaux de narcissisme ont tendance à grimper. Et donc, ça crée comme ça un potentiel, une espèce de ressort qui est prêt à se détendre et à sauter à la figure de l'autre.
Les réseaux étant un miroir aussi de notre narcissisme. Donc, j'imagine qu'il y a effet amplificateur.
Voilà, projeter l'image de soi, justement, dans ces règlements de compte. Et puis, le fait aussi que l'individu narcissique s'affranchit volontiers des lois qui s'applique à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde, mais pas pour le narcissique lui-même. Il dit, moi, je suis au-dessus de tout ça. Donc, si moi, j'estime avoir été bafoué, parce que j'ai une image fantastique de moi-même, je ne supporte pas la moindre atteinte à mon image, de toute façon, je suis au-dessus des lois, je vais prendre ma plume ou n'importe quoi, et je vais taper dans le tas, je vais me venger à la mesure qui me conviendra. Oui, je
crois. Ouais. Étienne Mulet, vous avez mené des expériences. C'est-à-dire qu'on peut tester la vengeance quasiment en laboratoire. Hein.
On peut étudier le désir de vengeance, parce que la vengeance n'est pas quelque chose qui se manipule sans danger. Et donc, mener des études sur la vraie vengeance dans des situations réelles, évidemment, ça rencontre des butoirs éthiques qui rendent impossible ce genre de choses. Mais on peut étudier le désir de vengeance à travers
des outils classiques,
des questionnaires, par exemple. On a mis au point des questionnaires de désir de vengeance, mais aussi, bien entendu, de désir de pardon et de désir de réconciliation.
Dans quelle situation, par exemple, vous avez pu exercer ces travaux ?
Nos travaux ont surtout porté sur le pardon. Je parle aujourd'hui de la vengeance, sans doute un peu par défaut de trouver quelqu'un dont la spécialité aurait été l'étude de la vengeance. Quand on met en relation, par exemple, le désir, la volonté de pardon et le narcissisme, pour revenir à un concept qui vient d'être évoqué, on trouve effectivement une relation négative et très négative. Plus l'on est narcissique, moins on exprime le désir, de façon générale, hein, de pardonner.
Ouais. Qu'est-ce qui ressort alors de ces études, en gros ?
Comme je disais, les personnes les plus narcissiques, mais aussi les personnes avec des tendances névrotiques importantes ou encore les personnes ayant des tendances paranoïdes sont des personnes qui ont tendance davantage que les autres à exprimer un désir de vengeance. Ça, ce n'est pas la vengeance qu'on peut avoir, et à ne pas exprimer un désir de pardon.
Mais je crois Nicolas Baumard, oui.
Voudrait. Je voulais juste ajouter qu'il y a des nouvelles recherches qui essayent d'étudier la vengeance d'une manière plus comportementale. Alors effectivement, on ne peut pas demander à des gens, leur donner des armes et puis regarder ce qui se passe. Mais on peut faire ça au moins avec de l'argent, avec des ressources. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on invite des participants en laboratoire, on leur demande de coopérer. Et puis ensuite, parfois, il y a des gens qui trichent, qui essayent de prendre plus d'argent. Et là, on observe, on donne aux participants la possibilité de se venger. On leur dit, voilà, vous avez 10 euros, vous pouvez en dépenser une partie pour infliger un coup à l'autre. C'est-à-dire, vous donnez 2 euros et lui, il va perdre 10 euros. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous ne le faites pas ? Et là, effectivement, on observe des différences interindividuelles. Il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles de s'énerver, de se venger, et d'autres qui vont pardonner.
Oui. Sébastien Boller, est-ce que le désir de vengeance est identique chez l'homme comme chez la femme ? On peut étudier ça aujourd'hui ?
Je crois que, c'est ce que j'en discutais avec Étienne Mulet, il y a des petites différences, hein, puisque les études montraient que dans des situations où la vengeance s'exerce au sein du couple, il semblerait que certains griefs, certaines offenses subies par une femme peuvent donner lieu à des réactions de ressentiment plus profond, et notamment le sentiment d'être rejeté. Donc c'est ça qui était intéressant aussi par rapport, à l'adhésion qu'a connu le livre de Valérie Trierweiler auprès de toutes les lectrices qui se sont senties, pour certaines d'entre elles, solidaires, c'est-à-dire le sentiment d'être rejeté, d'être utilisé, d'être trompé. Voilà, c'est quelque chose qui peut susciter des réactions particulièrement intenses chez une femme.
Étienne Mulet ?
Oui, pour faire plaisir à Sébastien, d'ailleurs dans mon article j'avais extrait un travail très sérieux donc sur les différences hommes-femmes, et dans tout ce qui est rupture amoureuse, par exemple transgression amoureuse, il est clair que les réactions des femmes diffèrent quantitativement et qualitativement des réactions des hommes.
Morissette nous dit ceci, on ne peut pas passer de la douleur au pardon en ligne droite, il faut savoir exprimer sa colère, la vengeance raisonnable permet de reconnaître sa propre colère, d'accepter sa douleur passée et donc de se reconstruire. Vive la vengeance, nous dit cette auditrice.
C'est très bien ce qu'elle dit sur le fait qu'il faut, ça prend du temps, il faut le dire. Et en fait, il y a des expériences qui montrent justement que déjà parler, dire à la personne qui nous a agressé qu'elle nous a agressé, le dire aux autres, déjà ça diminue l'envie de se venger. En fait, ce qu'on a envie, c'est que déjà l'autre soit au courant qu'il a commis quelque chose de mal.
Et pourquoi certaines personnes, justement, seraient-elles plus susceptibles que d'autres de se venger ? Est-ce que là aussi, d'un point de vue social, on a pu étudier les ressorts qui interviennent ? Alors, qui veut répondre ? Le psychologue d'abord, peut-être ? Nicolas Baumard.
Il y a des hypothèses évolutionnaires sur les différences interindividuelles. Notamment, Michael McAuliffe à l'Université de Floride, donc, qui a fait les expériences dont je parlais tout à l'heure, s'est intéressé aux différences d'environnement. Il a montré que les gens qui avaient vécu dans un environnement difficile, où il y avait de la violence domestique, de la violence dans la rue, où ils avaient été abandonnés par leurs parents, etc., étaient beaucoup plus sensibles à la tricherie et avaient beaucoup plus envie de se venger. Et la théorie évolutionnaire derrière cette histoire, c'est que Donc quand on vit dans un environnement où la coopération est plus difficile, où on a plus de chances que les autres trichent, nous exploitent, etc., à ce moment-là, il est beaucoup plus avantageux de se venger. C'est-à-dire, plus on est dans un environnement dangereux, plus il faut prévenir une future exploitation. Et donc, il y a effectivement des grosses différences.
Étienne Mullet, vous partagez aussi cette analyse.
Oui, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire M. Bormard. L'expression de la colère est nécessaire, et ça aussi c'est très très vrai dans les thérapies, par exemple les thérapies par le pardon, qui sont une variété de thérapies cognitives et comportementales.
Ah, ça existe, des thérapies par le pardon?
Oui, absolument, qui ont été validées comme toutes les thérapies cognitives et comportementales, et qui produisent effectivement les effets qu'elles sont supposées produire. L'un des premiers pas, c'est justement de susciter chez la personne qui a été victime ou qui s'est sentie victime, susciter une expression de sa colère. Ne pas exprimer de la colère après avoir été victime, c'est d'une certaine manière un manquement d'estime pour soi-même, un manquement de respect pour soi-même. Il faut franchir ce premier pas avant d'entamer effectivement tout le parcours que suppose cette thérapie.
Ouais. Les émotions, ça prend une place très importante justement dans ce comportement.
Tout est émotion pratiquement dans ce domaine, bien entendu. Le ressentiment qui est le cœur du problème, qui est l'émotion extrêmement douloureuse que l'on essaye de faire diminuer pour continuer à vivre, pour cesser de ruminer, le ressentiment est évidemment une émotion de l'ordre du stress. C'est un stress très particulier qui fait suite à une transgression.
Oui, vous avez, je crois, Étienne Mullet, participé à une étude sur le ressentiment durable chez des détenus en prison, c'est ça?
Oui.
Comment on parvient à mener là aussi ce type d'expérience?
Eh bien, comme disait M. Bommard, il est souvent difficile d'avoir des mesures comportementales dans ce genre de domaine. Alors, notre mesure comportementale, c'était avoir été l'auteur d'un homicide et d'être incarcéré pour cet homicide versus contre le fait d'être quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques socio-démographiques que l'homicidaire incarcéré, mais qui n'a pas commis d'homicide. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'à défaut d'agressivité équivalente, c'est-à-dire quand on contrôle l'agressivité à l'aide de questionnaires d'agressivité, les personnes qui sont incarcérées pour homicide ont des niveaux de ressentiment durable beaucoup plus élevés que les personnes qui sont incarcérées pour quelque chose qui n'est pas un homicide ou que les personnes contrôlées qui ont les mêmes caractéristiques mais qui ne sont pas, elles, incarcérées du tout. Ce qui veut dire que beaucoup d'homicides sont en fait le résultat d'une difficulté à gérer le ressentiment durable, au-delà même de l'agressivité.
Et ce que vous dites, c'est qu'une bonne gestion du ressentiment, c'est déjà l'expression par la colère, le fait d'exprimer son indignation au lieu de la ruminer.
Oui. Je pense que exprimer sa colère ouvertement, c'est un élément d'une bonne gestion du ressentiment. Oui.
Nicolas Bommard, sur cette notion de ressentiment durable.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a énormément d'études qui ont montré qu'effectivement, il y a une grande part des homicides, des crimes. On pense qu'ils sont commis par des gens qui veulent exploiter d'autres personnes. Et en fait, c'est des gens qui réagissent. Au contraire, ils ont l'impression qu'on leur a manqué de respect, ils ont l'impression qu'on leur a volé. Et c'est des gens qui calibrent mal et qui... Et finalement, parfois, ça part à propos de pas grand-chose. Mais plus généralement, je voudrais revenir sur le stress et sur les thérapies du pardon. Et c'est vraiment intéressant de comprendre pourquoi... c'est aussi stressant. Pourquoi il faut pardonner? Pourquoi les gens qui pardonnent pas, ils sont aussi stressés?
Voilà. Est-ce que la vengeance est mauvaise pour la santé?
En tout cas, la vengeance sûrement mauvaise pour le chance d'aller en prison, etc. Mais
ça génère du stress.
Le ressentiment durable
est mauvais. Oui. Et pourquoi le ressentiment il est mauvais? Parce que notre cerveau se dit, voilà, on a été attaqué, il faut défendre notre réputation, il faut prévenir les attaques futures, on ne l'a pas encore fait. On ne s'est toujours pas vengé. Tous les jours, le cerveau... Et ça, c'est énormément de stress, parce que il va falloir le faire. Et donc, pardonner, se dire, non, on va passer à autre chose, ça fait diminuer le stress.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut pardonner tant que l'autre n'a pas fait d'excuses? C'est la question que je me pose.
C'est là où vraiment il y a énormément de travail à faire sur les thérapies du pardon, parce que c'est pas évident de mettre en place des façons de pardonner d'une manière artificielle.
Ouais. Donc ça se passe à deux, au fond. Ça se passe avec celui qui a provoqué cette colère ou ce désir de vengeance, et celui qui souhaite... peut-être pardonner par la suite, mais...
Pas forcément. C'est-à-dire qu'une des grandes surprises que l'on a eues au début de nos travaux sur le pardon était de voir qu'une certaine proportion de personnes sont capables de pardonner de manière inconditionnelle. Et nous avons pu vérifier la force de ce pardon inconditionnel dans une enquête que nous avons réalisée au Rwanda, chez des victimes du génocide du Rwanda. Et nous constations que certaines d'entre elles s'en tiraient plutôt bien au niveau émotionnel, au niveau de la santé mentale. Nous nous sommes posé la question, nous avons introduit aussi des questionnaires de pardon, de capacité de pardon de façon générale. Et nous avons constaté que le seul pardon qui améliorait la santé mentale était le pardon inconditionnel, ce qui nous a quand même interloqué jusqu'à ce que nous comprenions que dans ce contexte très particulier, où les perpétrateurs du génocide ne sont jamais venus s'excuser auprès des victimes, oui, eh bien, seuls les gens capables d'un pardon inconditionnel avaient cette possibilité de récupérer un niveau de santé mentale, disons, étonnant.
Étonnant. Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens?
Alors ça reste à être étudié, parce que ce n'est pas très directement lié à la religion.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Étienne Mulet, donc on peut lire cet article. Il y a beaucoup de choses dont on vient de parler, mais d'autres éléments encore vraiment à explorer donc dans ce nouveau numéro, Sébastien, de Cerveau et Psycho. Oui. Et puis du coup, on en profitera également pour découvrir ce dossier sur les génies.
Oui, très intéressant. Apprendre à penser comme un génie, si c'est possible.
Oui, on va peut-être pouvoir nous aider à le faire. En tout cas, il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires de neurosciences. Merci Nicolas Baumard. Je signale votre livre, donc Comment nous sommes devenus moraux, chez Odile Jacob.
Elle m'a oublié, je crois, elle se souvient même pas. Quand elle m'a rencontré, ses yeux rencontraient mes yeux. Moi je faisais des étincelles, comme un oiseau blessé, brûlé par le soleil. Elle me regarde de haut, comme un enfant qui pleure. Pourtant du soir au matin, tu avais besoin de moi. Tu m'appelais encore, comme une musique d'été, je consolais l'aurore. Je pense à toi, souvent je pleure. T'es sur mon sort comme une odeur. Va la la la. Regarde, regarde, regarde-moi. Je pense à toi, c'est pas pareil. Elle m'a dépassé, elle m'a même pas regardé. Et moi je suis resté là, drunk in love de toi. Sous les bannières du street et dans la fausse Venise, les lumières électriques. Je sais plus, mon cœur, mon âme, hélas. Quand les pirois de Las Vegas s'effacent et se confondent en reflets évanouis, je vois tes yeux qui c'est un alcool puissant, dissipé dans la nuit. La tête me tournait encore, j'entends les sifflets, les rires, comme un refrain usé, chanté par un vampire. Regarde en bas, regarde-moi. Je pense à toi, souvent je pleure. T'es sur mon sort comme une odeur. Va la la la. Regarde en bas, regarde-moi.
Vous êtes dans La Tête au Carré, c'est Arcadin que nous entendions il y a un instant. Et nous avons bien sûr, comme à chaque fin d'émission, quelques questions scientifiques sur le feu à vous proposer, avec bien sûr Florence Porcel à mes côtés. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
On fait connaissance avec deux nouveaux candidats.
Mais oui, Cynthia et Richard, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cynthia qui nous appelle de loin, mais puisque vous êtes à la Réunion, c'est ça?
Tout à fait.
Vous habitez à Saint-Paul et vous êtes professeur de français.
Voilà.
Et vous avez des élèves de quel âge à peu près? Vous occupez de quelle classe?
Là, ce sont des secondes et des premières.
Cynthia, nous allons vous présenter Richard qui se trouve face à vous et qui habite à Tordère dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Richard.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissez l'île de la Réunion?
Oui, justement, on en discutait un peu avant l'émission. J'y ai passé 2 mois cet été, donc oui, tout à fait.
Donc vous étiez en train de papoter pendant les essais de voix, en fait, c'est ça?
Bah bravo.
Tout à fait.
Bon, vous n'avez pas croisé Cynthia au hasard, je ne sais pas, d'un marché à Saint-Paul, par exemple?
Exactement, c'est possible, oui.
Allez, on va jouer ensemble. Vous allez donc néanmoins vous affronter dans quelques instants. Et cette semaine, on joue avec les éditions Atlas, Laurence, qui sont partenaires de notre jeu.
Oui, et nous offrirons aux gagnants le grand atlas de l'astronomie, préfacé par Hubert Reeves. Bonne chance à tous les deux.
Allez, bonne chance, Cynthia, Richard. Voici la première question, question d'actualité. Je vous laisse d'abord pour nous donner votre réponse. Écoutez un extrait de la bande-annonce du film Événement Interstellar qui sort aujourd'hui sur les écrans. Personne ne peut l'ignorer. Voici donc la bande-annonce de ce film. Je vous pose la question juste après.
Ce monde est un trésor. Mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie.
La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Allez là-haut. Sauver le monde.
Voilà donc la bande-annonce du film Événement Interstellar, avec lequel un astrophysicien qui s'appelle Kip Thorne a collaboré. Il a été le conseiller scientifique de ce film et il a fait une découverte particulière au sujet d'un astre lors justement de la préparation du film. Autour de quel astre a-t-il fait cette découverte ? Évidemment, un des thèmes du film. Top chrono.
Un trou noir, un trou de verre.
Oh là là, bravo Cynthia.
C'était effectivement un trou noir.
Bonne réponse. Comment le saviez-vous, Cynthia ?
Ben, je l'avais lu, je crois.
Voilà, il y a de très bons échos autour du film qui donc est sorti en salle. On n'a pas encore eu le temps de le voir,
non,
mais on va se
encore
précipiter.
Évidemment, hein, ce soir.
Florence, ouais. Voilà, Interstellar. Qui rapporte 10 points à Cynthia.
À Cynthia, effectivement. Et l'astrophysicien américain Kip Thorne donc, a envoyé des pages et des pages de calculs à l'équipe des effets spéciaux. Et c'est un ordinateur qui a fait le reste. Et il a été très surpris de l'image simulée qui est apparue, puisqu'un trou noir ressemble en fait à un cercle lumineux entouré d'anneaux de lumière. Il publiera bientôt un article scientifique sur cette découverte.
Voilà, c'est un cas original, en
oui,
tout cas, de
étonnant.
Découverte scientifique grâce
au cinéma.
Au cinéma, effectivement, et Interstellar. 10 points donc, Cynthia, pour vous. On passe aux questions de rapidité. Vous avez 1 minute 30, donc soyez vraiment vif, rapide pour nous donner vos réponses. Cette question, la première est en principe la plus simple, la dernière donc la plus compliquée. Et on passe à la question suivante. Dès que vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le demander. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ?
Oui.
Oui.
Allez, top chrono. Première question. Quelle direction l'étoile polaire indique-t-elle ? C'est la question la plus facile.
Le nord.
Le nord, non. Richard. Bonne réponse, bravo. Quelle discipline la médaille Fields récompense-t-elle ?
Les mathématiques.
Richard, encore une petite longueur d'avance. Quel musée a servi, on parlait de cinéma, au décor du film La nuit au musée ?
Un musée qui est sur Central Park à New York.
Exactement.
Oui, le Muséum d'Histoire Naturelle de New York.
Allez, bonne réponse, Richard, on vous l'accorde. Qui a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Cynthia, vous pouvez encore prendre de l'avance. Non. Lavoisier, j'ai entendu votre bonne réponse, Richard. Comment s'appelle l'amphibien légendaire qui était réputé pour vivre dans le feu ?
La salamandre,
Richard. Toujours une petite avance. Attention. Eh oui, Cynthia, je suis désolée. Quel pays a signé le protocole de Kyoto il y a 10 ans aujourd'hui, mais qui l'a quitté en 2012 ?
Les États-Unis.
Non, un autre.
La Russie,
Cynthia, c'est pour vous cette fois-ci. Dernière question, quel est le nom de l'hormone végétale qui stimule la maturation de nombreux fruits ?
Non. C'est pas l'auxine ?
Non. Hormone végétale ?
L'éthylène,
bonne réponse de Richard. Bravo, on a toutes nos réponses. Ah là là, Cynthia, je suis désolé, c'était vraiment une question de rapidité, vous aviez quasiment toutes les réponses. C'était toujours sur le fil. Et c'est Richard qui vous a devancé. Alors, ça nous fait quoi comme total, ça, Florence ?
Eh bien, ça fait 30 points pour Richard et 15 pour Cynthia.
C'est le total du jeu pour l'instant.
Du jeu pour l'instant.
Allez, on va essayer de vous offrir quelques points supplémentaires, Cynthia, avec le mot mystère. Est-ce que vous avez apprécié déjà ces mots qu'on vous a donnés tout à l'heure en antenne ?
C'était très amusant, oui. Mais je le connaissais pas, celui que je dois faire deviner.
Bon, donc vous avez pu cogiter un petit peu, vous renseigner pour faire découvrir ce mot mystère à Richard. Et vous avez 45 secondes. C'est vous qui commencez, Cynthia. On lance le chrono. Allez, bonne chance.
Alors, il s'agit d'un minéral incolore, un peu rougeâtre. Son surnom, c'est la pierre de lune. La pierre de lune, non ?
Non, c'est pas le quartz, Richard.
Sinon, on appelle la Lune, c'est une déesse grecque qui a donné son nom à la Lune comme Artémis.
Pensez aux romans de science-fiction également, Richard. Les habitants de la Lune, voilà. Dans les romans de science-fiction, par exemple.
Voilà, les habitants de la Lune aussi. Et je vais les donner.
Allez, vous l'avez, je suis sûr. Non.
Silice, non plus.
Non. On tourne autour. Hein.
J'avoue que là, je l'ai sur le bout de la langue.
Mais... Il y a un composé chimique qui est très toxique, ça doit, c'est dérivé du même mot.
Voilà. Cynthia, vous êtes sympa, parce que vous essayez encore d'aider Richard, mais malheureusement, le chrono est terminé. Alors, vous nous donnez la bonne réponse, Cynthia ?
C'est la sélénite.
Et les habitants de la Lune, les sélénites.
Les sélénites, oui, dans les romans de science-fiction, souvent.
Je suis fan du baron de Munchausen, mais bon...
Voilà.
Et vous l'aviez presque, hein, Richard. Hein. Moi, je pensais qu'il allait arriver au bout de votre langue, mais non, c'est dommage.
Elle est trop longue.
Allez, c'est à vous, en tout cas, utilisez à bon escient pour faire découvrir le mot mystère à Cynthia. Vous avez 45 secondes, c'est parti.
Alors, c'est l'étude des signes. Ça, c'est vraiment la définition la plus précise. Mais en fait, c'est une étude ou une science qu'on peut trouver dans plusieurs domaines. Notamment, le plus connu, je pense que c'est l'étude des signes. Ça donne la linguistique.
Mais on la sémiologie.
Bravo. Hey, Cynthia, professeure de français.
Eh oui, c'est vrai.
Hein, on vous la fait pas, quand même.
C'est une question...
Voilà, science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale, la sémiologie. Roland Barthes qui a utilisé la sémiologie pour étudier le sport ou les mythologies, par exemple.
Exactement.
Bon, il y a un petit retournement de situation, mais je ne sais pas si ça suffit à Cynthia pour prendre l'avance sur les
points. Ça ne suffit pas, mais pas loin. Cynthia, donc 25 points et Richard est toujours à 30. Donc c'était vraiment au coup d'à coup. Vous êtes bien rattrapé, Cynthia. Je suis désolée, c'est quand même Richard qui remporte le jeu. Voilà.
Bon, ben voilà. Donc l'Atlas, ça va aller jusqu'aux Pyrénées-Orientales et non pas jusqu'à La Réunion.
Et là, c'est ben non. Voilà. Préfacé par Hubert Reeves aux éditions Atlas. Et il est sorti la semaine dernière d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Si
on
vous
a combien
vous procurer,
de on a combien de décalage avec vous, Cynthia?
3 heures.
Très bien. Ben écoutez, voilà. Vous écoutez donc La Tête au Carré en fin d'après-midi chez vous, hein, c'est ça?
Quand je rentre du travail, c'est très bien.
Super.
Ben écoutez, on est ravis en tout cas. On se dit à bientôt sur les ondes.
Aussi, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
De même, merci beaucoup.
Merci à vous et bravo à vous, Richard. À bientôt pour s'inscrire, franceinter.fr. Allez, on part dans les kiosques avec aujourd'hui un nouveau numéro de la collection du Monde, les grandes idées de la science qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens. Cette semaine, le principe d'Archimède, considéré comme l'un des principaux scientifiques de l'Antiquité classique, Archimède a vécu en temps de guerre et pour défendre Syracuse, sa ville natale assiégée par les Romains, il a employé son génie à construire de prodigieuses machines de guerre et il s'est distingué dans ce domaine comme il l'a fait dans tous les autres d'ailleurs, les mathématiques, la physique, l'ingénierie et l'astronomie. Il a calculé l'aire définie par un arc de parabole à l'aide d'une méthode aujourd'hui considérée comme l'ancêtre du calcul infinitésimal. Il a perfectionné le système de numération des Grecs, permettant d'exprimer des grands nombres, et il a proposé une méthode de calcul d'une précision remarquable. Mais la découverte à laquelle il doit la célébrité est celle du principe hydrostatique qui porte son nom, et pour lequel il a prononcé la célèbre interjection Eureka. C'est ce que vous allez découvrir en lisant le principe d'Archimède, Eureka, les joies de l'invention. C'est un ouvrage de la collection Grandes idées de la science, proposé par Le Monde, en partenariat avec La Tête au Carré, à retrouver aujourd'hui dans les kiosques.